Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue sur la saison 2 du podcast Le futur, c'est maintenant. Pour cette nouvelle saison, je vais aller à la rencontre d'acteurs majeurs en France, mobilisés pour l'éducation, l'insertion professionnelle et l'innovation RH. Un seul objectif, leur donner la parole le temps d'une heure pour faire rayonner leurs initiatives en faveur de l'emploi. Je m'appelle Paul Foutrel, je suis entrepreneur et cofondateur de l'entreprise Grim. Et comme vous le savez déjà, notre raison d'être, c'est de faciliter l'accès à l'emploi pour toutes et tous, avec un brin de technologie. Je vous souhaite évidemment une belle écoute. Salut Jérémy, bienvenue sur cet épisode du Futur c'est maintenant.
Salut Paul, enchanté et merci.
Ravi de te rencontrer du coup. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur ton parcours professionnel, sur le super projet, la superbe école que tu as lancée qui s'appelle Lucas, spécialisée dans les métiers de la comptabilité. Et puis je serais très curieux aussi d'en apprendre un peu plus sur tes perspectives de développement, sur tes changes à venir en 2024 notamment. Est-ce que tu veux bien me parler un peu de toi, ton parcours professionnel? Te présenter un petit peu, Jérémy.
Ouais, grand plaisir. Alors, du coup, moi, j'ai un parcours où j'ai fait, dans mes études, pas mal de trucs assez différents. Après mon bac, j'ai commencé donc par un BTS compta. Donc, on va y revenir plus tard parce que c'est un peu... j'y suis revenu aujourd'hui. J'ai commencé donc par un BTS en compta, suite à quoi j'ai fait donc une licence en création d'entreprise, en entrepreneuriat, dans une école de commerce à Paris. Et donc, ça aussi, j'y suis retourné sur la création d'entreprise. Donc, ça m'a servi plus tard. Et enfin, suite à ça, je suis rentré en master grande école, donc dans une école qui est à Rouen, donc Neoma Business School. Et donc, j'ai eu mon master grande école à la fin de mes études. Et donc, suite à ça, j'ai commencé mon parcours pro. Le parcours pro, il a démarré dans le conseil, donc j'ai fait un peu plus de 5 ans dans le conseil, dans la performance, l'organisation, les systèmes d'info, etc.
Du coup, tu étais sur un métier de consulting, hein, c'est ça?
Ouais, absolument. J'étais consultant, vraiment consultant dans un gros groupe. Et donc, j'ai fait 5 ans chez des clients, très, très majoritairement dans le secteur public, des acteurs publics, sur des missions d'organisation pour des tribunaux, sur du déploiement de systèmes d'information pour des organisations publiques assez grosses. Et au bout de 5 ans, bon, moi, j'en ai eu un peu marre, donc je suis parti. Et j'ai décidé de rejoindre une très, très jeune entreprise qui s'appelle Média France, sur un poste de RAF puis DAF, donc responsable administratif financier et directeur administratif financier. Donc, dans une entreprise qui s'appelle Média France, qui propose du contenu pour des PME, de mettre en avant leur marque dans des grands médias. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans.
Et c'est quoi les enseignements du coup que tu en as tiré de cette expérience? Tu m'as dit 5 ans, je crois, dans une boîte de conseil.
Dans le conseil,
ouais. Ouais. Et la transition, qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, tu m'as dit que tu avais fait un peu le tour, que tu voulais un nouveau challenge.
Ouais.
Ça a dû t'apporter pas mal de choses, j'imagine, de travailler dans une boîte de conseil.
Ouais, absolument. Alors, je pense que ça m'a le plus appris, c'est un peu bête, mais c'est juste c'est le volume de travail. C'est que on bosse comme des
dingues
de conseil.
Ouais.
Ouais. Et en fait, je pense que j'ai développé à ce moment-là une appétence un peu pour vraiment pour beaucoup bosser, quoi, en fait, tout bêtement. Et aussi beaucoup l'adaptabilité, c'est-à-dire que quand tu fais du conseil, surtout dans ces boîtes là tu peux être envoyé pendant un moment sur une mission pour faire une réorganisation d'un service dans un tribunal, par exemple, ce que j'ai fait, ou 2 mois après pour aller travailler sur le déploiement complet d'un système d'information dans un ministère. Et ça a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes prérequis, c'est des choses que tu connais absolument pas, donc il faut monter en compétence rapidement, et donc tu développes un peu cette capacité à monter en compétence, à comprendre les choses, en tout cas essayer de comprendre les choses rapidement. Et ça permet, dans un rôle d'entrepreneur comme ce que j'ai aujourd'hui, d'être capable de passer d'un sujet A à un sujet B rapidement, et d'être capable d'essayer en tout cas de comprendre les choses et de m'intéresser aux choses, et de rentrer vraiment dans le cœur des choses, quoi.
Ouais, cette capacité d'adaptation, elle est hyper importante dans nos quotidiens, je pense.
Ouais,
peu importe le métier.
Carrément.
Du coup, on était sur l'expérience suivante, là.
Ouais, donc je fais 2 ans chez Média France, hyper intéressant sur la partie structuration d'une très jeune start-up, mise en place des outils, quand elle est devenue scale-up, vraiment la partie, on est passé, je crois, de 10 quand je suis arrivé, mais un peu moins de 70 quand je suis arrivé à quasiment 100 quand j'en suis parti, donc en moins de 2 ans. Donc ça a été vraiment hyper intéressant sur toute la partie scale, vraiment quand la
structuration de l'entreprise, exactement. Croissance.
Exactement, mise en place des outils, etc.
Ton métier a dû évoluer
énormément. Énormément.
Pendant cette aventure.
Ouais, complètement. Et en fait, tellement qu'à la fin, quand on était 100, qu'ils ont commencé vraiment à regarder sur des sujets de financement importants, etc. Moi, c'était pas vraiment ma une formation de base que j'avais eu, donc j'étais pas, pour moi, prêt à être DAF sur des missions de cette ampleur. On a décidé, et moi je leur ai, enfin, j'avais un projet à côté de création d'entreprise.
D'un commun accord, vous êtes séparés.
C'est ça, on s'est dit, bon, ça, là j'arrive en limite de compétences, en plus moi j'ai très envie de faire autre chose à côté. Et donc on s'est séparés à ce moment-là. Et moi j'ai monté donc ma première boîte en 2018, il y a 5 ans, suite à cette expérience. Ma première boîte c'était une entreprise donc qui faisait de la formation déjà, j'étais déjà dans ce schéma-là, sur un métier hyper précis qui est le métier d'ingénieur d'affaires dans les entreprises de conseil. Ingénieur d'affaires c'est commercial, globalement dans les entreprises de conseil. Et on avait mis en place un schéma assez, assez nouveau où en fait on prenait des diplômés de Bac plus 5, on leur faisait un mois de formation un peu accéléré et ensuite on les proposait à des entreprises sous un format de recrutement, donc un peu comme un cabinet de recrutement, mais sur des profils nouveaux diplômés, donc qui n'avaient pas encore d'expérience professionnelle.
Et cette entreprise, du coup, tu l'avais fondée tout seul, tu avais des associés.
On était deux.
Vous étiez deux,
Ouais, on était deux avec Nicolas Arnoux, qui est un ami d'enfance, un de mes meilleurs amis. En fait, on s'est retrouvés donc, à la fin de mon expérience précédente et de son expérience précédente. On s'est dit, ok, on a envie de monter un truc tous les deux et on y va. Donc, on a monté ça à deux.
Et vous l'avez porté jusqu'à...
On est bien monté, on était 7 dans l'équipe. On avait une cinquantaine de clients. On a fait, dans une année, on a formé plus de pas 100 étudiants, mais je crois plus de 70. Sur une année, donc ça fonctionnait bien. Et est arrivé janvier 2020, le Covid.
Le Covid,
Donc fermeture de tout, distanciel, le conseil, la plupart des structures de conseil qui sont complètement effondrées parce que les volumes de consultants.
Les budgets étaient revus, toutes les cartes étaient redistribuées, le monde a bien changé depuis.
Et ils ont licencié énormément de monde.
Ça devait être dur, non, du coup, de. Comment tu l'as vécu?
Écoute, on a. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette volonté de toujours s'adapter, toujours avancer. On a essayé de. Donc on a pivoté, on a commencé à faire des formations. Parce qu'il y avait pas mal de dispositifs qui étaient pris en charge par l'État, donc on a essayé de faire pas mal de formations pour proposer aux entreprises, pour faire monter en compétences leurs consultants, les faire changer de job, enfin vraiment d'en prendre quand même le parti, tu vois, de réussir à fonctionner avec ça. Mais voilà, ça s'est essoufflé, c'était compliqué de gérer à distance, la reprise. Malgré, tu vois, la reprise des activités, en fait, il y a eu un tel effondrement dans les populations de consultants qu'en fait, et de joueurs d'affaires, qu'en fait, il y avait trop de monde sur le marché, alors que nous, on était sur un marché hyper tendu qui nous permettait de vendre des prestations. Donc
par clairvoyance, vous êtes dit on va pas s'acharner.
Ça a pas décollé.
C'est dur de s'arrêter hein, quand on.
Surtout la première fois.
Tu vois, moi, la première boîte que je montais quand j'étais étudiant entrepreneur, c'est mes potes, c'est mes copains qui m'ont dit hey, Paul, c'est bon, arrête avec. Ça s'appelait Swapi, ton petit robot pour trouver des bons plans, des activités autour de toi quand tu voyages. Arrête avec ça, ça fait un an et demi que tu portes ça, tu fais pas d'argent, arrête. En fait, tu peux tomber dans le piège de l'acharnement et savoir s'arrêter. Je pense que c'est presque une compétence, savoir dire non.
C'est hyper dur.
Et du coup, on arrive sur la genèse du projet Lucas derrière, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, on a décidé d'arrêter sur La Forge. Et moi, en parallèle...
La Forge, ça s'appelait.
La Forge Academy, ouais.
Ok,
La
Forge, trop cool. Ouais,
absolument. Et en fait, on a... Enfin, moi, j'ai décidé de monter un autre projet. Et j'ai commencé du coup à rencontrer un peu des gens. Et j'ai eu une rencontre qui a été assez, assez fondatrice dans Lucas, qui était avec quelqu'un qui s'appelle Pascal Lasserre. Donc, qui est le patron d'une entreprise qui s'appelle Diversifio, qui a pour vocation d'accompagner des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs sur des créations. Et donc on a discuté du projet, on a monté le projet. Il m'a accompagné, on va dire, sur la création du projet.
Ouais.
Et du coup j'ai monté Lucas en début 2022, tout début 2022.
Donc lui il a donné de son temps comme mentor plus ou moins finalement.
Ouais, c'est ça.
Il a investi un peu dans.
Ils ont,
okay. T'as réussi à allier un peu l'utile. Et l'agréable, quoi.
C'est ça.
Parce qu'il faut bien des ressources pour démarrer, évidemment.
Ouais, c'est ça. En fait, donc on a mis ça en place et on a. Donc ils m'ont accompagné cette structure là et on a donc j'ai démarré la création de Lucas en février 2022 et après ça a été donc un peu une course contre la montre parce qu'on avait pour objectif de faire un démarrage en septembre 2022
première rentrée du coup avec les étudiants
Donc de monter l'école, monter les programmes, trouver les intervenants, faire les calendriers, trouver ouais. tous les étudiants.
Puis c'était nouveau pour toi ça, ou tu l'avais peut-être déjà fait un peu avec la Forge?
Je l'avais quand même un peu fait avec la Forge.
T'avais les bases.
Ouais, c'est ça, pas le côté diplôme d'État, etc. Mais tu vois, monter la structure rapidement, avoir les accréditations, Galliopie, etc. Ça allait.
Ouais.
Et puis aller chercher des candidats, même si c'était pas la même typologie de candidat, c'est quelque chose que j'avais quand même un peu fait avant.
Ouais.
Donc ça allait. Chercher des entreprises. Ça a été un peu plus difficile parce que ça...
Oui, parce que t'as pas encore la notoriété, tu démarres.
C'est ça.
Donc il y a ce facteur confiance qu'il faut créer. Ouais.
Ouais, de dire en fait j'ai même pas de locaux, j'ai aucune existence avant, et donc faites-moi confiance. Non, c'était un peu... C'était
et
un
du
peu
coup, tes premières entreprises un peu partenaires, elles t'ont fait confiance, ça s'est passé comment
Ouais. Heureusement, il y a eu des alors du coup, grâce à Diversifio, j'ai rencontré donc un cabinet expert comptable qui s'appelle Audit CPA.
Qui est d'ailleurs mon expert comptable, si tu ne savais pas, voilà, je te le dis.
Écoute,
on utilise Penny Lane et Audit CPA,
c'est
mon expert comptable.
Ils sont très bons. En fait, c'est aujourd'hui notre partenaire un peu
privilégié.
Ils sont hyper, hyper présents. Ils nous ont pris pas mal d'étudiants sur la première année parce qu'ils avaient des gros besoins.
Super.
Et ils continuent à travailler avec nous parce que ça se passe bien, et donc ça c'est hyper important, on travaille beaucoup avec eux, et donc grâce à ça en partie, et puis grâce à donc des partenariats avec Pennyline, avec Conto, et grâce à pas mal d'actions qu'on a menées sur la recherche de partenaires, on a réussi à faire grossir et à trouver un gros réseau de partenaires. Donc on a pas mal de belles structures maintenant qui en font partie, et ça bâtit un peu ça donnait de la confiance, et maintenant on a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, on met aussi beaucoup de choses en place pour trouver des entreprises.
Du coup, Lucas, c'est quoi ?
Alors, bien sûr, on y revient. Lucas, c'est une école de formation, enfin une école dédiée aux formations comptables et financières sur des diplômes d'État. Donc globalement, on fait que des diplômes d'État, on fait des BTS, des licences et des masters qui s'appellent le DCG et le DSCG, diplôme comptable gestion et diplôme supérieur de comptable gestion. Et donc, on forme sur, en fait, tous les diplômes d'État de la filière comptable, donc des diplômes comptables. Et on forme pour l'instant uniquement en alternance.
Mmh.
On est très spécialisé, ce qui nous permet d'être vraiment dédié à une discipline et de le faire bien. Parce que on n'est pas comme quelques écoles.
Vous n'êtes pas généraliste. Voilà. Vous êtes...
On n'a pas 32 verticales. Mmh. Donc nous, ce qu'on sait faire, on sait bien faire.
Pourquoi tu as choisi les métiers de la comptabilité alors ? Parce que tu as fait un BTS compta initialement ?
Ouais, en fait, alors moi effectivement, j'ai même avant mon BTS compta, j'ai eu un bac STMG, enfin, l'ancien avant c'était un autre nom, mais STMG maintenant, donc sciences et techniques.
Management des gestions, quelque chose comme ça. J'ai du mal avec les acronymes, ça change en plus tous les ans.
C'est ça, je crois que maintenant c'est management des gestions avant que ça rebouge.
Ouais.
Et,
il y avait un peu de compta quoi.
Exactement, en option gestion finance et compta. Donc en fait, j'avais fait de la compta même avant le bac, j'ai fait de la compta donc en BTS compta gestion, j'ai même refait un peu de compta derrière, j'ai fait des alternances en cabinet de comptabilité et ensuite en cabinet d'audit.
Mm-hmm.
Donc j'avais quand même un petit peu une base là-dessus. Et en fait, via Diversifio, j'ai aussi réussi donc à rencontrer des cabinets comme Audit CPA qui m'ont permis de travailler ce projet et de monter ce projet en parallèle aussi avec des cabinets qui m'ont permis du coup d'avoir une vraie assise sur la
partie. Ouais, un réseau déjà pour démarrer, c'est hyper important. T'as beau avoir ton idée, ton business plan, peut-être un peu d'argent, si t'as pas un réseau des partenaires pour démarrer, c'est fondamental.
Exactement, si j'avais fait de la communication, tu vois, j'aurais pas eu tout ce réseau, ça aurait été beaucoup plus difficile.
Et est-ce que c'est parti comme d'une frustration sur les métiers de la comptabilité, ou parce que tu sais, quand tu montes tu te lances ton projet, ta boîte, des fois ça vient d'une frustration personnelle où tu vois une problématique sur le marché ou quelque chose. Comment t'as flairé les choses, comment t'as senti qu'est-ce qui t'a poussé à monter Lucas?
Ouais, en fait moi je parlerai pas d'une frustration, mais effectivement c'est un
il y a un paramètre, c'est sûr.
Ouais en fait quand j'ai regardé un petit peu, je voulais monter une école, j'ai commencé à regarder sur la partie comptable parce que je connaissais un petit peu et que j'avais un peu de réseau là-dessus, et en fait quand j'ai fait j'ai fait un benchmark des écoles en compta à ce moment-là.
D'accord.
et en fait je me suis dit, quand j'ai vu ce qu'elles proposaient, quand j'ai vu l'image qu'elles avaient, quand j'ai vu les outils qu'elles utilisaient, etc., je me suis dit c'est pas possible que les écoles d'aujourd'hui travaillent comme ça et travaillent avec des images aussi vieilles, travaillent avec des outils qui me paraissent aussi vieux et sur des schémas qui sont aussi anciens quoi.
Bah c'est vrai que l'image, enfin attention à ce que je vais dire, mais tu sais, le métier de la comptabilité ou l'image du comptable, c'est peut-être pas forcément l'image. Aujourd'hui on veut bosser dans le community management, on veut bosser dans la tech, voilà, il y a des effets de mode. C'est un secteur qui existe depuis des lustres. Et Est-ce qu'il y avait besoin de le dépoussiérer? Je sais pas. Mais en tout cas, tu as flairé qu'il fallait peut-être le rendre un peu plus séduisant pour attirer les futurs talents.
En fait, alors, tu as tout à fait raison de dire ça. En fait, sur la partie compta, et du coup, nous, c'est vraiment un de nos axes de travail, effectivement, il y a toute une vision, et c'est surtout la vision effectivement du grand public, qui est que le comptable, c'est même, on parle de boîte à chaussures, c'est que les gens, quand ils vont voir leur comptable, ils mettent leur petite facture dans une boîte à chaussures et ils la portent à leur comptable.
Sauf s'ils ont Penny Lane.
Sauf si, exactement.
Petite dédicace.
Voilà, exactement, Penny Lane. Et du coup, nous, c'est dans cette. Voilà, c'est dans cet axe-là qu'on s'inscrit, c'est pour ça qu'on est partenaire avec Penny Lane, avec Conto.
Avec un peu d'innovation.
Exactement, c'est qu'en fait, on est vraiment sur des outils qui sont beaucoup plus modernes, on est vraiment sur une perception de la compta qui est plus du tout la même, et même du comptable qui est plus quelqu'un qui saisit les factures et qui fait des trucs un petit peu redondants et chronophages, mais beaucoup plus dans quelqu'un qui va apporter de la valeur à l'entrepreneur et au chef d'entreprise. Et ça, nous, c'est vraiment notre vocation. Et du coup,
c'est votre ADN.
En fait, on a voulu effectivement dépoussiérer la compta, non, parce que je pense que tu vois, il y a des entreprises qui sont très bien, mais dépoussiérer la formation à la compta et essayer d'apporter justement ces éléments qui sont apportés par ces structures-là aux étudiants dès leurs études pour les former aux outils qu'ils auront demain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des études, et ce qui est hélas pas le cas non plus dans le programme de compta qui est proposé par l'État, et c'est dommage. En fait, nous, on essaie de l'apporter dans nos formations. C'est ça qu'on essaie de faire en plus.
Parce que moi, tu vois, j'ai le souvenir en école de commerce d'avoir un. Alors, je sais même plus comment ça s'appelle, un livret comptable ou quelque chose avec le numéro des comptes.
PCG, le plan comptable général.
On l'utilise toujours, ça?
Bien sûr, on a 200 en bas, bien sûr, et t'as le truc, le dépliant avec les comptes par classe, etc.
Puis maintenant, je les retrouve sur mon logiciel, ces fameux numéros, et je commence à un peu plus
à les connaître,
à mieux les maîtriser.
Sûr, on en a encore et on est obligé de leur, on en donne à nos étudiants pour qu'ils révisent et pour qu'ils passent qu'ils passent à la fin leur diplôme. Et
super. Bon, j'ai fait mes devoirs avant de préparer le podcast, l'échange aujourd'hui. J'ai vu que le nom Lucas, ça venait d'un mathématicien. Tu peux m'en dire un peu plus? Comment t'as trouvé le nom, du coup? Parce que c'est toujours aussi un exercice avec ses associés, ou de se poser, je lance un projet, il faut trouver un nom. Comment ça s'est passé de ton côté?
En fait, on avait moi, j'avais la vocation de créer une école qui avait quand même, enfin, comme j'ai dit, on a une vraie spécialisation dans la compta. Ça, on fait que de la comptabilité. Et du coup, quand on a, moi, quand je me suis réintéressé du coup à la compta, venant sur le secteur de la compta, j'ai voulu chercher vraiment un nom qui puisse montrer cet attachement profond au domaine de la comptabilité. Et du coup, ça a apparu assez naturellement, tu vois, dans les recherches que j'ai faites, quand j'ai trouvé le nom de l'inventeur de la comptabilité tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, du principe de la partie double. Ce qu'on appelle la partie double, c'est le débit crédit. Donc, il s'appelle Luca Pacioli. Et donc, c'est lui qui a inventé ça, on va dire, qui a mis en place ce système-là dans les années 1500. Et c'était, en fait, pour la petite histoire, un ami de Léonard de Vinci.
Incroyable.
Ouais. Et du coup.
Petite leçon d'histoire, pour en profiter.
Ouais. Et c'était d'ailleurs je sais plus si c'était un moine ou un curé, en tout cas, il appartenait à l'église. En plus, il a une vie incroyable, il a fait énormément de voyages, etc. Et du coup, en plus, donc c'est lui qui a créé la comptabilité. Donc je me suis dit, quoi de plus logique pour une école dédiée à la compta que de prendre le nom du fondateur de la comptabilité.
Et du coup, est-ce que tu as son portrait ici dans les locaux ou une image de lui quelque part?
Sur le site, on avait son image et non, j'ai plus de non, je l'ai pas, j'ai pas imprimé son portrait parce que non, j'ai pas imprimé son portrait pour tout te dire.
Petite idée, c'est cadeau.
Écoute, la prochaine fois que tu reviendras, ça
sera derrière. Sur le storytelling, quand tu fais l'intro auprès des étudiants, est-ce que sur chaque rentrée, tu fais le petit mot de bienvenue avec tes étudiants?
Ouais, absolument.
C'est ta deuxième rentrée, hein, si je me trompe pas, aujourd'hui.
Ouais, tout à fait.
Aujourd'hui, il y a plus de 150, à peu près 150 étudiants qui ont démarré cette année avec vous.
Ouais, c'est ça. On a accueilli 154 personnes cette année et oui, écoute, oui, je fais le mot d'introduction du directeur comme après tous les directeurs, je pense, d'école quand ils arrivent, et effectivement, en général, je leur parle de Lucas et de pourquoi on s'appelle Lucas et de l'attachement profond qu'on a à la compta.
Super, je pense que c'est hyper important de garder ce contact, évidemment, humain, mais bon, après, c'est l'école, on n'est pas sur une école généraliste avec des milliers et milliers d'étudiants, donc tu peux te le permettre plus facilement qu'un directeur qui a plusieurs campus peut-être et qui navigue partout en France. Comment on rejoint Lucas quand on est étudiant après le bac, du coup, pour le BTS, par exemple, non?
Ouais, alors il y a plusieurs, en fonction du niveau du diplôme qui va être recherché par l'étudiant, il y a plusieurs voies. Par exemple, pour les premières années, donc BTS première année, DCG première année, donc ceux qui vont vraiment démarrer une première année d'études, effectivement, c'est plutôt post-bac. Donc on a pas mal de gens qui candidatent via Parcoursup, ou même en dehors de Parcoursup, mais effectivement, ça, c'est plutôt post-lycée ou alors post une première année. Souvent, c'est des gens qui viennent, qui ont fait un an de fac ou qui ont fait un an de DUT et qui vont changer. Maintenant, on a ouvert aussi ce qu'on appelle le DCG. On a des admissions parallèles, donc post BTS comptabilité gestion. D'accord. Validée, donc une deuxième année peut redémarrer une deuxième année de DCG chez nous. Et en parallèle, on ouvre le master, donc à la
D'accord.
prochaine.
Donc tu peux faire un bac plus 2, le ouais. DCG c'est bac plus 3, ouais. et le master jusqu'à bac plus 5.
Absolument. En fait, la vocation qu'on a, c'est d'avoir toutes les classes du cycle de compta.
Ouais.
Quelqu'un qui démarre un cycle de compta chez nous, il peut faire l'intégralité chez nous.
Et une fois qu'on a le diplôme après le master,
oui.
Pour devenir expert comptable, on n'en a pas terminé si je
on
me trompe pas.
On n'en a pas terminé. Il y a encore un diplôme. Alors celui-là, on ne le prépare pas.
Ouais.
Parce que c'est un peu.
C'est assez élitiste, ça, quand même. Ça. Il faut.
Ouais, et puis surtout, c'est chasse-gardé par une école.
D'accord. Qui a le monopole, presque.
Ouais, absolument.
Ouais.
Absolument.
C'est un peu. Ouais, c'est fou, ça. Je vois, il y a un petit sourire. Il
ouais.
y a écoute, des métiers mais... comme ça, des organisations en France qui ont un certain monopole.
C'est fou, hein.
Ouais.
Mais, donc ça, tu peux pas.
Un peu comme les notaires, peut-être.
Peut-être, comme les professeurs réglementaires, un petit peu.
Ouais.
Mais donc voilà. Donc
bon, en tout cas, tu leur amènes peut-être sur un tapis rouge des étudiants formés au métier de la compta, au digital un petit
bien
peu,
sûr.
Et prêts frais sur le marché. Quoi.
Ouais, ouais. Alors là, on démarre le DSCG, mais effectivement, dans deux ans, quand nos premières sessions de DSCG seront sorties, j'espère qu'ils iront jusqu'au DEC, donc le diplôme d'expert comptable, et qu'ils iront du coup aussi à les rangs de l'école pour arriver au métier d'expert comptable. Absolument.
Il y a quelque chose qui m'intéresse, du coup, sur le métier d'expert comptable en 2023-2024, bientôt.
Ouais.
Comment est-ce que le métier évolue? Comment est-ce que tu vous préparez? Est-ce que vous êtes une équipe, hein? Vous êtes combien?
Ouais, on est 7.
7 personnes, puis avec des intervenants extérieurs, des professeurs. Ouais. Comment vous préparez les étudiants au... Peut-être un changement. Moi, je connais pas tant que ça ces métiers, mais comment tu vois le métier de les métiers de la compta? Peut-être que tu peux même me parler de quelques postes qu'on peut avoir une fois qu'on est diplômé. Et comment vous préparez les étudiants à ces différents métiers?
Nous, on a une formation, comme je dis, qui est hyper qui est généraliste, mais qui est très axée sur la comptabilité. Le BTS de compta gestion ou le DCG, c'est très très axé sur la comptabilité. Donc, par les cours, ils vont apprendre toutes les notions dont ils ont besoin, normalement pour, en tout cas toutes les connaissances qu'ils vont avoir besoin, pour démarrer. Et en parallèle, et c'est pour ça que moi je suis très attaché à l'alternance, ils vont passer donc à minima 2 ans, voire 3, voire 5, voire même, ouais, absolument en entreprise, en grande majorité dans des cabinets de comptabilité ou d'expertise comptable, ou dans des entreprises, dans des équipes.
Où la compta est internalisée dans l'entreprise.
Absolument.
Hein. Donc plutôt des boîtes avec, je pense, 150, 200 salariés.
Ou même des plus petites.
Ouais.
Tu commences à un peu plus petit.
Ça dépend
peut-être
des industries, mais des secteurs d'activité.
Ouais, tout à fait. Mais ouais. on a des clients de plein de secteurs d'activité différents qui sont certains de petite taille, certains de très grande taille. Mais donc on a des gens, donc pour répondre à ta question, en fait les élèves ils sont principalement formés en cours et aussi beaucoup en tout cas sur la partie métier et pratique par leurs employeurs. Donc nous on a cette volonté, on va avoir une spécialisation comme je disais sur la formation sur les nouveaux outils, des outils comme PennyLane et sur des nouveaux usages, tu vois, dans l'automatisation par exemple, mais on va aussi laisser à l'entreprise, c'est leur vocation aussi, tu vois, la possibilité de leur donner les éléments pratiques pour former les étudiants.
C'est quoi le rythme d'alternance du coup chez Lucas?
Alors on fait, nous, sur tous nos diplômes, on est sur du 3 jours, 2 jours.
Okay. C'est bien, du coup, ça veut dire que toutes les semaines, tu es à l'école et tu es en entreprise.
Ça, c'est hyper intéressant pour les entreprises en
général.
Ouais, j'aime beaucoup. Ça, j'aime
beaucoup. Super. Et du coup, l'alternance, on la démarre dès la rentrée. Et puis, il y a des périodes où on est un peu plus en entreprise, hein, si je ne me trompe pas.
Ouais, absolument. En fait, l'alternance, elle peut démarrer même 2 mois avant la rentrée et jusqu'à même 3 mois après la rentrée. Et en fait, on a le rythme d'alternance, il est simple, c'est que tu as, pendant toutes les périodes scolaires normales, tu alternes donc 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Et la seule différence pour les étudiants en alternance, c'est un peu la partie qui est difficile pour les jeunes diplômés du bac, c'est qu'en fait, toutes les périodes normalement où ils sont en vacances, ils sont en entreprise.
Après, ils peuvent poser leur jour de congé.
Exactement. Alors, mais ils passent de, je ne sais plus combien c'est, mais c'est 16 ou 20 semaines par an de vacances au lycée, et ils passent à 5. Donc, c'est vrai que souvent, c'est un petit choc.
Et est-ce qu'on a des... des rapports d'alternance à faire, des mémoires ou des, tu sais, des fameux dossiers là, qui t'angoissent un peu quand moi j'étais pas forcément le plus doué à l'école.
Moi non. Moi j'étais très doué.
C'est vrai, t'as des bonnes notes.
Non. Si, que j'étais jeune, mais après non, tellement.
C'est pour ça que t'es entrepreneur, t'es pas forcément dans, dans les bonnes cases.
Ouais, je pense que c'est ça. Non, mais alors. Pardon, ta question.
Ouais, est-ce qu'il y a des projets à mener, tu sais, des dossiers, des choses. Ouais.
En fait, non.
Quels sont les rendus? On a des partiels.
En fait, en alternance, là, en initial, tu peux en avoir, t'as des périodes de stage et tu peux avoir des dossiers à monter. En alternance, la spécificité, c'est qu'en fait, tu passes tellement de temps en entreprise, mm-hmm. et tu as déjà des situations professionnelles.
Bien sûr.
Qu'en fait, tu dois. Donc, t'as des situations professionnelles à faire en entreprise, mais t'as pas un dossier complet. Enfin, t'as pas de dossier à rendre, non, rapport ça. De stage, ouais. ou mémoire, etc.
Ok. T'en as pas. Ah, c'est bien. Comment vous accompagnez du coup les étudiants dans la recherche d'entreprise?
Ça, c'est ma question préférée.
Bah ouais. Et puis, t'as vu qui te la pose? C'est mon métier.
Bah ouais. Non, ouais, c'est ma question préférée parce que ça, je pense que c'est le sujet principal qui fait que tu peux réussir en tant qu'école et surtout faire réussir tes candidats, mm-hmm. Derrière. Nous, comment. Alors, je vais te répondre en deux temps. En fait, et ça va être assez paradoxal, c'est que pour moi, il y a deux éléments hyper importants. C'est d'une part d'avoir énormément de temps de contact humain, de rapport humain avec les étudiants, avec les entreprises, donc d'être très présent. Ça passe beaucoup par l'humain. Et à côté de ça, en parallèle, c'est d'être très bien, et là je te regarde en ce moment, très bien outillé,
ouais.
Pour avoir la capacité de... En fait,
d'être efficace, réactif, créer du lien avec l'entreprise, ouais. le jeune, avancer sur les dossiers, sur l'administratif. Ouais.
Pas perdre du temps sur des tâches chronophages, longues, répétitives, qui en fait font perdre énormément de temps à tout le monde et qui empêchent d'être efficace et qui empêchent de pouvoir avancer rapidement. Donc nous, on a vraiment cette double vocation de, d'être partout, je veux dire, sur le, tu vois, pour trouver une entreprise, de scruter tous les job boards, d'aller contacter tous les employeurs potentiels qu'on a autour de
Donc
nous.
Donc, tu as quelqu'un qui a vraiment un métier de commercial. Bah, tu sais, je pense que tu es le premier commercial, finalement, de Mika.
Bien sûr, et on est quatre. Ouais. On est quatre là-dessus, quasiment à temps plein. J'ai une équipe pour relations entreprises qui fait quasiment que ça.
Ouais.
Tu vois, vraiment d'aller...
D'aller sur le terrain.
Ouais.
C'est ce que me disait, j'ai oublié son prénom, qui m'a accueilli,
Ayat.
Agathe, qu'elle aimait bien aller, du coup, dans les entreprises, parce qu'on fait tellement de visites. Que se déplacer comme ça, c'est plaisant, puis on crée des relations, c'est important.
Absolument.
Parce que du coup, c'est, tu vois, moi il y a une notion que j'aime pas trop dans ces métiers, c'est le placement des étudiants.
Ouais.
J'aime bien parler d'insertion professionnelle, d'accompagnement.
Ouais.
Il y a quand même un enjeu de trouver une entreprise, de placer l'étudiant, évidemment.
Bien sûr.
Mais si l'étudiant peut participer à sa recherche d'entreprise, c'est quand même un plus, parce que c'est quand même fondamental de pouvoir prendre en main sa petite carrière de l'école.
Ouais, c'est clair. Et c'est un truc qui, pour nous, est hyper important. Donc, on essaie vraiment de faire les deux, d'avoir leur donner tous les outils. Mm-hmm. Tu vois, je te donne un exemple. On a un tableau qu'on leur met à disposition sur lequel, nous, on va aller automatiquement récupérer toutes les offres d'emploi qu'on va pouvoir sélectionner.
Tu m'en avais parlé, je me souviens.
Ouais.
Donc, fais tomber les annonces.
Ouais. C'est ça. Donc, automatiquement, tu vois, ça arrive sur un tableau. Et en fait, c'est pour ça que je te parlais de tâches chronophages. En faisant ça, on leur évite d'aller tous les jours sur l'ensemble
du job board. Sur les job boards,
Tu vois, où ils perdent du temps, où une fois sur deux, ils se trompent parce que ils lisent pas jusqu'au bout toute la description, ils se rendent pas compte que c'est pas sur les bons diplômes, que c'est pas sur les bonnes formations, etc. Donc, en fait, on essaie vraiment de d'automatiser tout ça pour leur faire gagner du temps et qu'ils soient vraiment
focus sur peut-être leur CV, leur gestion des entretiens, sur leur manière de candidater.
Ouais. Et tu vois, nous, ça nous permet, en faisant ça, en fait, ça nous permet de vraiment nous concentrer avec eux sur les éléments qui sont importants. Tu vois, on va leur faire du coaching pour les entretiens, on va faire des simulations d'entretien, on va leur montrer, tu vois, comment est-ce qu'il faut candidater, qu'est-ce qu'il faut aller chercher.
La bonne posture.
Ouais, et on va vraiment travailler avec eux sur les trucs de fond et pas sur les trucs.
Tiens, j'ai une question improvisée à te poser. Ouais. Pour toi, les trois conseils que tu donnerais à un étudiant qui cherche une entreprise chez Lucas, là. Les trois conseils, top conseils.
Peut-être que je vais même en donner qu'un, tellement le volume.
C'est mettre du volume dans sa recherche, c'est trouver un travail, c'est un travail à plein temps, quoi, même pour une alternance.
Ah, c'est vraiment, en fait, c'est le truc que je vois le plus chez mes alternants tous les jours, et ceux qui sont par exemple là encore en recherche. En fait, ils n'ont pas en tête, et ce qui est normal, hein, ils n'arrivent pas à percevoir quand ils démarrent leur recherche à quel point ils vont devoir faire du volume pour la plupart pour pouvoir trouver une alternance.
Ils se disent qu'ils vont postuler. Y a une sacrée compétition quand même, une sacrée concurrence.
Bien sûr.
Entre étudiants, entre écoles, les entreprises elles en reçoivent beaucoup aussi des demandes d'alternance, donc il faut.
Mais au-delà de ça,
y aller.
Bien sûr, t'as raison. Mais au-delà de ça même, en fait, c'est surtout qu'il y a énormément d'entreprises qui recherchent et énormément d'étudiants. Donc en fait, si un étudiant se dit, bah en fait, je vais postuler à 10 ou 20 offres d'emploi. Et ça va fonctionner.
Ouais, et puis j'attends d'avoir un retour.
Et j'attends que. Et puis machin. Et en fait, s'ils ne me rappellent pas, moi, c'est pas grave, je ne vais pas les rappeler.
Je suis d'accord avec toi.
En fait, s'ils partent là-dedans, pour moi, c'est pas qu'ils n'ont aucune chance, mais en fait, c'est à moins qu'ils aient un top profil ou qu'il y ait vraiment le match, ils aient énormément de chance sur la
décoration. Ouais, il faut se battre pour trouver son entreprise aujourd'hui.
Il faut candidater tous les jours sur toutes les nouvelles offres et il faut rien lâcher jusqu'au bout.
Prendre le téléphone. Ouais. Et je pense que. Tu vois, moi, j'interviens quand même dans pas mal d'écoles et parfois, quand je discute avec des étudiants, on me dit « Ouais, mais on n'ose pas, on n'a pas envie de déranger monsieur le recruteur. » Et je leur dis « Mais on vous en voudra jamais d'être motivé, on vous en voudra jamais de relancer, d'aller jusqu'au bout, même de prendre un an, une porte, comme un commercial qui prend une porte. Hein. » Voilà, vous êtes jeunes, on est tous passés par là. Vous avez le droit d'y aller, quoi, relancer.
Bien sûr. Et même si en face, on vous en veut, on vous ferme la porte au nez, quoi.
C'est pas grave.
Et alors
C'est pas grave. La vie, elle est faite de.
Bah ouais,
et c'est juste. Hein.
Et même après 9 portes fermées au visage, la 10e, si elle reste ouverte, c'est déjà une victoire. Ouais. Donc en fait, clairement, moi, c'est ça le. C'est donc, effectivement, de toujours persévérer, de faire du volume.
Parce il faut les former, du coup. Hein. C'est toi qui les coaches un peu, du coup, parfois.
Moi, je l'ai fait.
T'interviens comment dans l'école.
Moi, je l'ai fait beaucoup au début. C'est moi qui ai monté, du coup, tout cet accompagnement, tous les outils qu'on a autour de ça, etc. Et maintenant, donc, j'ai passé la main, donc j'ai toute une équipe aux relations entreprises, avec une responsable des relations entreprises, qui va faire ça, qui va aller les coacher au démarrage. On les voit toutes les semaines, on fait venir tous nos étudiants qui n'ont pas encore de contrat, toutes les semaines dans nos locaux pour bosser avec eux, regarder ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a des éléments sur leur CV. On refait des simulations d'entretien avec eux pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas. On les coach, on les remotive parce que souvent ils se démotivent un petit peu. On leur remontre, voir s'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris, s'il y a des choses à améliorer, etc. Donc ça, on continue et on essaye. En fait, pour te dire, on essaie vraiment de les accompagner. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure.
Ouais, je sens qu'il y a de l'énergie autour de ce sujet.
Oh là là, pour moi, c'est le sujet. En fait, le sujet pour une école de trouver des candidats, c'est plus un sujet maintenant.
Ouais.
Parce que, pour moi.
Il y a quand même un vivier d'étudiants, recherche de formation.
Il suffit d'être un peu visible, d'avoir un peu une bonne image, etc. Ouais. Franchement, c'est pas très compliqué. Donc aujourd'hui, la vraie difficulté pour une école, c'est de réussir à accompagner suffisamment.
Ouais, faire les bons matchs finalement entre l'étudiant et l'entreprise. Et puis de toute façon, c'est aussi lié à, comme toute organisation, c'est aussi lié au chiffre d'affaires, c'est ce qui te permet de vivre, ce qui te permet de recruter, ce qui te permet d'apporter encore et encore de la valeur pour les étudiants, pour tes équipes, et je le comprends parfaitement.
Et de mettre de l'humain, plus tu réussis à avoir des étudiants et du coup effectivement avoir du chiffre d'affaires, plus tu peux mettre des gens en face, tu peux payer des salaires pour mettre des gens en face accompagner ces gens et qui vont avoir, tu as un vrai accompagnement humain qui va être important.
En prémisse de ce podcast, on discutait de l'aide de l'État proposée aux entreprises. C'est vrai que tu suis énormément les actualités à ce sujet, parce que c'est un marché qui est quand même assez en mouvement depuis la fameuse crise sanitaire.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah ouais, tout à fait. En fait, on a donc on est pas mal. Les écoles en alternance, on est pas mal accompagné par le gouvernement qui offre des aides exceptionnelles. Donc l'année dernière, cette année, normalement,
on a commencé à 8 000. Là, je crois qu'on est à 5 6. On a 3 ou 4 alternants chez Grim. C'est vrai que les premières années, c'était super. Moi, c'était mes premiers salariés. Hein. C'était 2 alternants et on a créé. Tu vois, c'était rigolo de créer une solution pour les étudiants avec des étudiants et ça a été franchement, ça a été de la fraîcheur, ça a été de l'énergie, c'est super d'avoir des jeunes en entreprise. Bon, après, il faut quand même passer un peu de temps, hein, parce qu'au-delà d'avoir l'aide de l'État, c'est quand même des ressources pour accompagner le jeune, parce qu'ils sont quand même en formation.
Bien sûr.
Et attention, quand tu postules, quand tu es étudiant et qu'on te propose un poste et qu'on te demande le même niveau de qualité de service ou d'engagement qu'un salarié en CDI, il faut quand même faire attention à ça. Il y a des entreprises qui ont besoin d'être... je pense accompagner aussi sur le recrutement d'alternants, non?
Ce que beaucoup de et surtout c'est un peu un biais qu'on a en ce moment avec justement les aides de l'État, c'est que beaucoup d'entreprises se disent bon c'est super, les alternants coûtent pas très cher, donc je vais en prendre et puis je vais les mettre
pour faire que ce soit de la chair à canon, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait ils se rendent souvent pas compte, enfin dans ces cas de figure là, parce que 98% c'est pas ça, hein, évidemment, mais dans ces cas de figure là parfois ils se rendent pas compte qu'en fait un alternant c'est pas effectivement quelqu'un qu'on va mettre sur une chaise devant un PC à qui on va dire fais ça. En fait c'est des gens, c'est des jeunes souvent qu'il faut former, qu'il faut faire monter en compétences, et en fait il faut plutôt percevoir la valeur qui pourront apporter à l'entreprise une fois qu'ils seront formés et qu'ils auront compris ce qu'ils doivent faire et vraiment qu'on les aura accompagnés, plutôt que de leur dire ouais mais toi là fais ça et si ça marche pas bah je te sors, parce que c'est clairement pas la bonne approche.
Chez Lucas, vous avez des alternants dans ton équipe?
Ouais, j'en ai 4.
Trop bien.
Donc c'est pas des alternants de qui font leur
sur études différents métiers, du coup.
Ouais, absolument. Ouais. On a sur la recherche d'entreprise et sur la recherche de candidats. Et pour les candidats, on a 4 alternants. Voilà. En fait, moi je trouverais ça presque paradoxal qu'on n'ait pas d'alternant.
C'était une question un peu piège. Parce que tu m'avais dit non, pas du tout, t'aurais perdu en crédibilité là.
Bah oui, j'imagine. Non, mais oui, bien sûr. Et en fait, moi j'ai toujours pas mal travaillé avec des alternants. Ouais. Et là, évidemment, dès que j'ai commencé, quasiment j'ai eu quelqu'un en alternance. Et là, on continue à avoir des alternants. Dès qu'on en a qui partent, on en remplace. Mm-hmm. Et en fait, ouais, c'est hyper intéressant et c'est hyper important parce que bah, ça permet de former des gens pour qu'ils arrivent après à la vie professionnelle. Et même, c'est vrai que je trouve que c'est doublement intéressant pour une école parce que, en fait, on n'a que des étudiants ou des alternants qui ont tous un certain âge, qui sont, tu vois, entre 18 et, on va dire, 23 ans. C'est pas mal aussi d'avoir en interne des gens qui ont cet âge-là, qui ont ou juste, tu vois, à peu près cet âge-là et qui vont avoir encore plus de proximité avec nos étudiants parce qu'ils sont sur le même âge, parce qu'ils ont à peu près les mêmes choses, tu vois. Et donc,
y a ça crée une alchimie, ouais. C'est...
Ouais, complètement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et même pour nous, tu vois, c'est vrai que c'est hyper intéressant de travailler avec des alternants qui restent chez nous. En général, on prend 2 ans, tu vois, qu'on tente de monter en compétences et de travailler, d'apprendre plein de choses, et voilà, c'est, ouais.
Change de sujet, mais c'est connexe. Ouais. C'est quoi ton rêve avec Lucas? Où est-ce que tu veux amener l'école dans les 5-10 prochaines années, Jérémy?
Franchement, je vais... pour l'instant, en tout cas, j'ai pas fixé de limite, parce que, bah, c'est simple, l'année dernière, on avait 30 étudiants, c'était dans 150.
Tu t'as dû bien te battre pour démarrer...
Ouais, c'est la bagarre, hein, pour lancer une formation en 5 mois et la remplir, c'était un peu la bagarre, mais ça a été hyper intéressant, parce que, du coup, comme on a réussi à en faire une en 5 mois, tu vois, derrière, quand tu dois juste, là, je mets des guillemets, mais quand tu dois juste mettre 3 classes ou 4 classes au lieu d'une l'année suivante et faire 4 fois plus d'étudiants, oui, c'est du travail, mais en soi, quand tu as réussi à monter une formation en 4 mois, bah, c'est faisable, et tu sais que c'est faisable, et à partir du moment où tu l'as fait, bah, c'est faisable, et la preuve, c'est qu'on l'a fait. Enfin, tu vois, on est 150 étudiants, et du coup, je vais dire, en fait, on n'a pas tellement de limites. Tu vois, on a des ambitions qui sont très fortes sur l'école parce que ça fonctionne bien, parce qu'on a des très bons échos. Tu vois, je te prends un exemple. On a même nos étudiants ont une super image de l'école, sont hyper attachés à l'école. On vient de créer une campagne ambassadeur. Et tu vois, sur nos étudiants, on en a une bonne partie qui voulait être ambassadeur. Et on a, tu vois, aujourd'hui...
Les salons, du coup, c'est des étudiants qui viennent vous aider à rencontrer d'autres étudiants.
C'est ça. Ouais. Sur les salons et les forums des écoles, tu vois, on envoie des ambassadeurs, donc des étudiants chez nous. Pour qu'ils puissent parler directement de l'école. C'est pas, tu vois, nous qui faisons un peu la promo de l'école, c'est vraiment des étudiants qui viennent dire ce que c'est leur quotidien, ce que c'est.
Je l'avais fait une fois, moi, quand j'étais étudiant en école de commerce, je citerai pas l'école, ceux qui me regardent sur LinkedIn pourront me trouver. Et bon, j'ai un peu la fibre commerciale. J'avais convaincu tellement d'étudiants qui voulaient me prendre sur tous les salons, Du coup, après, je me suis dit, bon, stop. Hein. Voilà, fallait peut-être me filer un petit salaire ou un peu plus de goodies.
Nous, on leur donne des goodies, des trucs. Enfin, on
les non, mais c'est cool parce qu'après, ça sera potentiellement ce qu'on appelle les anciens étudiants, des alumni de l'école. Tu pourras travailler le réseau alumni.
Ouais, absolument. Et donc, tu vois, ça, c'est hyper important pour nous que les étudiants ils aient une très bonne une bonne image de l'école, qu'ils se plaisent dans l'école et qu'ils aient envie de transmettre ça. Et ça, c'est assez cool parce qu'effectivement, cette année, on voit que, tu vois, là, je t'ai dit, on a quasiment une vingtaine d'ambassadeurs sur l'école, et alors que c'est la première année qu'on vient de les lancer. Et donc, on va vraiment développer ça et on veut vraiment avoir cette bonne image et
Et ça, c'est top parce que c'est un étudiant, un jeune, il peut facilement mettre ça sur son CV. Tu vois, c'est un peu comme s'engager pour une association, avoir des projets perso, parce que aujourd'hui, c'est pas juste être dans une école pour trouver une alternance, quoi. Il faut essayer d'avoir une belle histoire à raconter avec des expériences tout autour.
Ouais, complètement. Et c'est hyper formateur pour eux parce que ils sont dans des rapports humains, c'est pas mal dans la vente, ou en tout cas dans la proposition de valeur. Enfin, en tout cas,
dans la relation avec d'autres individus. Ouais. 150 étudiants. Tout le monde a trouvé une alternance aujourd'hui ?
Pas encore. On travaille dessus. Ouais, on a une bonne partie qui a trouvé, mais on en a encore. En fait, on a des gens qui nous ont rejoints, tu vois, vraiment juste à la rentrée. Donc, ils ont démarré un peu plus tard la recherche. On a des étudiants pour qui ça s'est terminé. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a... parfois les contrats vont pas au bout parce que des employeurs se rendent pas bien compte de ce que ça implique, donc il y en a quelques-uns qui ont arrêté.
Ça, c'est beaucoup d'enseignements, j'imagine.
Nous, sur la sélection des, je pense qu'on de toute façon on continuera à s'améliorer, mais effectivement sur la sélection des partenaires, tu vois, je pense qu'on va effectivement avec le temps on aura
plus en plus de
vraiment on s'assurera le plus possible en amont que les partenaires sont en capacité d'accueillir dans les bonnes conditions, parce que on n'a pas envie trop que nos étudiants partent dans des schémas comme ça, où tu vois, ça peut les décourager, c'est compliqué.
Moi, c'est un tips, un conseil que je donne à quelqu'un qui cherche un job, c'est de poser la question au recruteur: comment va se passer ma période d'intégration?
Moi aussi.
Et qui sera mon futur manager? Tu sais, pour sentir, prendre un peu la température. Bah écoute, parce que je suis persuadé qu'en 2023, 2024, il y a toujours des personnes qui arrivent en entreprise pour leur premier jour, ils n'ont pas d'ordinateur, le bureau, c'est là, t'es nouveau, tu vois, rien n'est prêt. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, quoi. Donc il faut quand même poser la question, parce que si tu sens que toi tu vas être directement sur ton poste et que ton employeur attend que tu sois 100% opérationnel le premier jour, c'est qu'il y a quand même un petit problème de culture d'entreprise.
Clairement.
Et encore pire, si on te un autre en anglais on appelle ça des red flags, la peau rouge, facteur où il faut faire attention, c'est quand tu fais 5, 6 entretiens, 7 entretiens pour une alternance.
C'est un sujet.
C'est pour un métier d'expert comptable ou de directeur, quelque chose, pourquoi pas.
Mais ça,
il y a des choses comme ça où il faut quand même le sentir, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'aller mettre les pieds au mauvais endroit.
Clairement.
Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail, à l'école aussi quand on est étudiant. Et c'est vrai que trouver une entreprise qui fait sens, peu importe le secteur d'activité, je pense que c'est hyper important d'avoir une belle équipe, une bonne culture d'entreprise, une période d'intégration qui est sympa.
Absolument. Bah pour te dire là, par rapport à ce que tu disais,
on pourrait presque noter les recruteurs, non? Les clients, on pourrait presque les monter, mettre des étoiles ou un score, tu vois. Un score de recommandation.
Non, mais pour aller plus loin dans ce que tu dis, absolument. En fait, on s'est même rendu compte, nous, sur des contrats d'apprentissage, que tu vois, on a des étudiants qui sont arrivés parfois, ils devaient démarrer un jour, et en fait, ils n'ont jamais eu de nouvelles de l'entreprise pendant... Enfin, jamais. Ils n'ont pas eu de nouvelles de l'entreprise pendant une semaine, et on leur dit, finalement, venez tel jour, ils viennent tel jour. Et en fait, il n'y a personne. Il n'y a même pas une personne dans l'entreprise. La porte est fermée, ils ne répondent pas au téléphone. Et donc, ils retournent chez eux. Et en fait,
qui vous appelle après?
Bien sûr, ils nous appellent en disant: mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on appelle et tout. Et il n'y a personne. Et après, l'entreprise, trois jours après, se réveille et dit: oui, mais en fait, pas de problème et tout. Mais en fait, ils sont complètement. Parfois, ils sont complètement déconnectés.
Tu peux nous lister un peu les outils que tu utilises au quotidien? Je t'imagine que tu as un CRM, j'imagine que tu as, je crois que tu me parlais d'Airtable, des outils en no-code, des bases de données. Comment vous êtes équipé?
On est beaucoup équipé.
Tu as beaucoup d'outils.
On est beaucoup équipé. On a un outil de gestion interne, un ERP, pour toute la partie formation, salle, etc., les profs. Et on a après, sur la partie là où on est le plus outillé, c'est vraiment sur toute la partie, on va dire, flux entrant, pour tout ce qui est candidat d'une part et entreprise d'autre part. Et donc là, effectivement, on a Airtable. Airtable, c'est vraiment c'est un peu pas la bible, mais c'est vraiment le
ouais, c'est central. Super puissant.
C'est hyper puissant.
Moi, quand j'ai démarré avec Grimp, on l'a fait, la solution, on l'a d'abord fait en no code et on avait utilisé Airtable comme base de données, et on avait connecté en front un outil qui s'appelle Stacker, et comme ça ça permettait de créer une page d'inscription. Puis on avait mis un Google Data Studio pour avoir un espace statistique. Et on a monté ça peut-être on a travaillé avec 10 écoles, peut-être il y avait 3-4 000 étudiants qui l'utilisaient en no-code, mais sans s'en rendre compte qu'on était vraiment sur quelque chose de fait maison. Et c'est un super outil.
Tu plugs, on a branché du coup Zapier dessus.
Donc on a, pour l'automatisation.
Je te parlais, qui est fondamental pour nous. Parce que tu vois, là, en 2 ans, on a traité plus de 5000 candidatures. Donc en fait, si tu commences à devoir répondre à la main aux 5000 candidats,
c'est clair, il faut automatiser les choses.
On a des mails modèles, des trucs, tu vois, donc tout automatisé. On a les listes, évidemment, pour tous les mails qu'on envoie.
Des séquences de mails, du coup.
Mais même, tu vois, pour dans nos étudiants en process, tu vois, pour des messages un peu standards, vous êtes préadmis, on va pas à chaque fois aller taper le message à la main, etc. Donc là, on a un Zapier à l'analyse comme ça, hop, on envoie. Bon, mes candidats n'écoutent pas, j'espère, comme ça. Ils ne savent pas que c'est un message qui part automatiquement, mais bien sûr.
Après, si c'est personnalisé, si l'apport de valeur est là, So what, comme
c'est
ça.
C'est on change un statut, tu vois, il reçoit le
non, mais c'est trop bien.
Disant que voilà.
T'as hacké un peu le.
Ouais, on essaie d'accélérer, d'améliorer, ouais. Tu vois. On a mis des calendriers pour
la prise de rendez-vous, ouais. Le coaching. Et t'as déjà fait un job dating avec des entreprises ici? Parce que les bureaux sont super là. Il y a de la place là.
Ouais, écoute, alors dans nos précédents locaux qui étaient donc dans le 10e, je dis bonjour d'ailleurs à Albert School qui nous a accueillis pendant un an. Donc on a fait un très beau job dating l'année dernière dans leurs locaux. Et cette année déjà, on a fait un très beau job dating aussi ici dans nos nouveaux locaux. On a eu une dizaine d'entreprises dont Miracle par exemple
qui est avec nous, une grosse plus qu'une start-up maintenant
belle structure Miracle et donc qui est venu ici, et on en fait régulièrement. On a fait un job dating en ligne, on fait des job dating pour tous nos partenaires qui cherchent des candidats, on leur fait des job dating dédiés, tu vois, mais on en fait aussi ici dans nos locaux, absolument. Et donc on en a fait un, je te dis, il y a un mois à peu près, qui s'est hyper bien passé parce qu'on est dans les locaux ici, on fait venir du monde et on fait rencontrer du coup les entreprises et les candidats, et on avait une dizaine d'entreprises et une cinquantaine de candidats en face, donc ça a hyper bien fonctionné.
Ouais, c'est top. Je trouve que moi j'aime beaucoup l'image de marque, le fait d'avoir un nom court comme Lucas, qui a une petite histoire derrière. Votre site web, on n'est jamais satisfait de son site web, non. On a trop envie de l'améliorer, c'est pareil pour toutes les organisations, mais je trouve qu'il y a quand même un côté séduisant et ça doit être un petit avantage quand même sur le marché. Je vois qu'il y a de plus en plus de métiers dans les plus grosses boîtes de chargés de relations école.
Ouais.
C'est des interlocuteurs principalement.
Ouais.
Ouais. T'en as, dont c'est le titre finalement.
Ouais, absolument, on en a un petit peu.
Les entreprises sont prêtes, du coup, ont pris le virage un peu de l'alternance. Parce que c'est un titre de poste qu'on voyait peut-être pas il y a 5 à 10 ans.
Il y a quelques années. Ouais, quelques années. C'est surtout dans les grosses structures qu'on a ça. Maintenant, nous en fait, c'est marrant parce qu'on bosse très peu. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on a très peu bossé avec des chargés de
relations
école. Ouais. Ouais. En fait, on est très souvent directement avec le ou la recrute. Enfin, le recruteur ou la recrutrice sur le métier.
Ouais,
sur
ok, métier, je comprends. Question,
ouais. Tu vois, on est beaucoup en direct ou avec tu vois des responsables ressources humaines, direction de ressources humaines ou direction ou DAF ou tu vois ou même des experts comptables directement pour les métiers de dans les
chez audit CPA par exemple, c'est directement les personnes au métier.
Ouais, soit les managers, tu vois, qui vont prendre dans leurs équipes directement, soit l'associé, tu vois, qui gère.
Nous c'est Romain Jousselin, s'il nous écoute, dédicace, tu connais.
Romain, je connais très bien. Romain bien sûr. Bah
ouais, c'est un de tes partenaires quoi.
Bah Romain il a deux étudiants chez moi par exemple.
Trop bien.
Donc ouais bien sûr, on est beaucoup ensemble et ça fonctionne bien donc
du coup tes étudiants sont dispatchés un peu partout en France ou principalement sur la région parisienne?
Écoute, non, pour l'instant on n'est que en région parisienne. Après on a nous la capacité d'accueillir des étudiants qui seraient en dehors de l'Île-de-France. Pour l'instant c'est un schéma qui n'a pas été mis en place parce que les entreprises, tu vois, ça n'a pas fonctionné, on va dire. Mais si demain j'ai un étudiant qui me dit bah moi j'ai une entreprise à Clermont-Ferrand et je veux suivre les cours de Lucas, je lui dirais bah pas de problème, soit si tu veux venir en présentiel, il n'y a pas de problème, mais bon, il faut faire les allers-retours. Soit si tu veux le faire en distanciel, on a tous nos cours qui sont accessibles en tout cas en distanciel. On a des systèmes dans toutes les salles, donc il peut aussi suivre en distanciel.
Ah, c'est bien.
Ça, c'est cool.
Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on échange, c'est cool, en tout cas, j'apprends plein de choses. Je me disais, là, pour 2024, est-ce que tu as des chantiers en cours, des projets à venir? Comment tu vois les choses là, pour l'année prochaine?
Bah écoute, nous, on est en train de, comme je disais, on est en train d'ouvrir le master.
Tu en as parlé tout à l'heure, effectivement, c'est un sacré sujet.
C'est un gros sujet parce que bon, c'est plus la même population, c'est plus des bacheliers, c'est des gens qui vont déjà avoir fait des études. Donc, on va ouvrir le master et en parallèle, en fait, on est vraiment en train de travailler avec plusieurs entreprises, des cabinets, des entreprises, pour monter des classes dédiées. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on travaille aussi. C'est-à-dire une entreprise vient nous voir, et une entreprise dans le cabinet, elle nous dit bah en fait voilà, moi je voudrais avoir tant d'étudiants l'année prochaine, tant d'alternants. On commence plutôt à 10 quand même, 10, 15, 20. Et je voudrais leur apprendre un peu des choses spécifiques sur la façon dont moi je fonctionne, les outils qu'on utilise au cabinet ou en entreprise. Donc est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et nous la réponse est évidemment oui. Donc en gros c'est de voir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on mette en place et quels sont les candidats qui veulent recruter, tu vois, quelle typologie de candidats veulent recruter. Et donc nous on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on va mettre après en place les programmes, on va mettre en place des schémas de recrutement, enfin de sélection des candidats pour vraiment s'adapter à ce dont ils ont besoin, et après on va trouver les bons candidats pour eux, on va leur présenter, ils vont prendre ceux qu'ils ont envie de prendre et après on va les former. Et tu es dans un schéma, en plus on peut co-brander les classes, enfin tu vois, c'est assez intéressant. Ouais, ça c'est la proposition de valeur qu'on veut vraiment développer.
Oh, on est toujours en mouvement, de toute façon.
Toujours.
C'est la clé du succès, peut-être.
Ouais, c'est ça. Donc, pour te répondre, c'est ça. Après, on veut faire grossir, tu vois. Aujourd'hui, on a 150 étudiants. Il y a tellement de demandes en Ile-de-France sur des postes et sur des candidats que vraiment, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin sur, tu vois, sur la taille de l'école.
Ouais.
Donc, on va grossir et après, potentiellement, attaquer des villes de province, soit attaquer. Voilà, on va faire peut-être un petit peu de distanciel, mais ce sera, je pense, pas le fond de notre activité. Mais ouais, on va
dépasser. Ouais, bah, tu fonctionnes par. Par opportunisme, c'est au ça. Sens positif du, ouais. du mot.
Ouais,
tu te souviens comment il s'appelle le podcast ?
Le futur, c'est maintenant.
Ça t'inspire quoi ?
Ça m'inspire plein de choses. Et non, c'est qu'on on avance vite, je pense, toi comme moi, et on essaie vraiment de faire en sorte de, comment dire, de mettre en place tout de suite maintenant les outils et les process qui seront en place demain et d'avancer le plus vite possible.
Ouais.
C'est peut-être ça.
Ouais, carrément. Et puis ça permet du coup aux étudiants d'être prêts pour leur métier de demain, les futurs talents comme on aime les appeler parfois. On a tous un certain talent. Merci Jérémy, j'ai passé un bon moment et puis on garde contact.
Ouais.
Salut.
Salut.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.